les deux mondes, hein, si je peux parler comme ça, puisque tu travailles fort avec les sportifs sur les thèmes que tu as décrits. Tu es aussi ancré dans le diocèse de Moselle, hein, je me trompe pas?
Alors Gilles, tu sais, pour marquer un but, il faut une passe. En tous les cas, je salue Géraldine Caps
Oui,
qui est.
allez.
Et donc, c'est Géraldine qui me coach, en fait, qui m'explique comment ça fonctionne. Et puis, moi, j'essaye
D'accord.
d'apporter ma contribution sur ce projet motivant qui peut être une pastorale du sport sur la Moselle.
Voilà, donc merci Géraldine de coacher, bien coacher.
C'est pas qu'un coachage, c'est surtout un travail en commun, une réflexion en commun, parce que bon, moi, si j'ai un petit peu de recul en pastoral, je n'en ai pas en sport, donc c'est une belle complémentarité.
Et on peut souligner que du coup, c'est un lien entre la pastorale du tourisme et des loisirs, quoi, et sport. De même qu'au niveau national, finalement, l'intégration naturelle s'est faite que Gilles fait partie de l'équipe nationale pastorale BRTL, pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Je vois que voilà, en Moselle, c'est aussi un petit peu la configuration que vous avez repris. Et je crois que ça, voilà, ça a beaucoup de sens, quoi.
Voilà, est-ce que parmi vous, il y avait peut-être des réactions d'anciens pratiquants de...
Oui, mais j'ai l'impression de voir défiler ma vie là. Mais c'est magique. Enfin, je dis pas, il ne faut pas dire magique, mais j'étais convertie aux Jeux Olympiques d'Albertville, j'étais bénévole. J'avais déjà terminé ma pratique professionnelle, j'étais joueuse de tennis. J'ai pas été dans les chez du côté chez du côté des milliardaires. Mais quand j'ai décidé quand j'ai décidé ma reconversion, je suis partie comme Moïse dans le désert, c'est-à-dire sans savoir où j'allais. Et dans ce que je viens d'entendre et de voir dans le diaporama, je trouve ça extraordinaire parce que ça, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, j'étais confrontée. Et quand je suis partie dans le désert, ma reconversion, elle a été ponctuée de nombreux miracles. Mais quand je dis nombreux, c'était peut-être quotidien. Parce que je suis tellement partie dans le désert que je savais vraiment pas où j'allais. Et je n'ai pas mon bac. Et j'ai une situation actuellement qui peut-être vaut bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, je ne sais pas. Et tout ça par la grâce de Dieu. Donc quand je vois mon parcours à moi, qui a été ponctué de miracles, et que je vois mes collègues, mes frères et sœurs athlètes, je me sens totalement impuissante pour pouvoir les aider. Parce que, et là, quand je vois ce que vous mettez en place, pour moi, c'est la concrétisation de toutes mes interrogations, de toutes mes frustrations, de toute mon impuissance. Tellement, moi, j'ai l'impression d'avoir été complètement bénie. Et il y a un tel besoin pendant l'activité professionnelle d'un athlète, même quand il est jeune, dans son environnement, dans son activité, dans le choix de ses amis, dans tout est complètement tellement sensible que quand on a la foi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, la foi, je l'ai eue du jour au lendemain, c'est-à-dire d'une minute à l'autre. Et j'ai pu expérimenter toute une carrière de joueuse de tennis sans la foi et une dernière année de joueuse de tennis avec la foi. Et ça a été mon seul regret, de me dire, bon sang de bonsoir, c'est vraiment dommage, c'est de ne pas avoir eu la foi tout le temps. Donc, ce que vous mettez en place là, ce que vous venez de dire, pour moi, je trouve ça, mais énorme.
Merci Isabelle. Je me permets de vous appeler Isabelle parce que bon, Cédric Guillemot nous a bien parlé de vous. Hein, donc, et puis merci pour votre témoignage. Hein, donc si ça vous intéresse de continuer à échanger avec nous hein, sur ce que vous voyez, on est, si je peux me permettre, bras ouverts pour accueillir vos témoignages et puis vos bonnes idées hein, sur ce
Oui,
qu'on vous
dans le projet envers 2024, c'est justement d'essayer de construire et de mettre en place une aumônerie au sein du village olympique, comme normalement il devrait en exister une. C'est d'ailleurs là que moi j'ai été convertie en venant comme bénévole. Et j'ai vraiment à cœur que cette aumônerie se mette en place. Et d'ailleurs, ça fait des années et des années, je me suis dans ma paroisse, on fait la prière des frères, et j'ai toujours dans l'idée de faire des progrès pour pouvoir être apte un jour à le faire pour des sportifs, d'accompagner des sportifs sur cette dimension spirituelle où, si jamais, quand vous parlez de Windy Renard, je trouve ça extraordinaire, et qu'on puisse, à l'image d'un... S'en servir de gourou parce que ça peut être très dangereux, mais les athlètes ont un psy qui les accompagne, et pourquoi il peut pas y avoir un accompagnateur spirituel pour préparer une compétition, pour préparer un match, pour préparer sa carrière, pour l'accompagner. Et ça, c'est une dimension essentielle qui n'existe pas, à ma connaissance, qui n'existe pas actuellement aux côtés des sportifs de très haut niveau et de haut niveau. Si les Américains, oui, les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont ça. Et c'est pour ça que quand nous, on fait une Coupe Davis et qu'on perd contre Djokovic, qui lui a un aumônier, qui a un pope qui vient bénir la rencontre de Coupe Davis, nous, les Français, on dit « Ah, on n'a pas de chance !» Ben, on n'a pas de chance, mais on n'a pas la foi. Donc, ça ne va pas tomber tout cuit. Donc, voilà.
Alors, vos voeux vont être exaucés dans la minute qui vient, puisqu'on va transmettre la parole à Joël Thibault, qui va rappeler qu'effectivement, il y a une situation peut-être à préciser. Pendant que Joël partage, je m'adresse à mon chairman. Alors, non, il y a encore des mains levées, donc excusez-moi. Donc, Pascal Balmand, avec le micro.
Merci. Je crois que Gilles avait levé la main avant moi. Donc, tant pis.
Non, mais je prends dans mon ordre. Mais j'ai repéré que Gilles aussi. D'accord.
C'est un petit peu. Parce que j'ai du mal à poser une question bête après le témoignage magnifique et émouvant d'Isabelle. Mais je vais quand même la poser, ma question bête. C'est une question qui vise un petit peu la dimension éducative du sport, parce que on sait tous que les clubs, les fédés, les acteurs et les responsables institutionnels du sport, de manière générale, n'arrêtent pas de mettre en avant la dimension éducative de leur pratique, pour le sport de haut ou de très haut niveau. Mais en même temps, moi, je m'interroge. Alors, on prend ses références dans son histoire personnelle. Je compare deux entraîneurs, deux sélectionneurs de l'équipe de France de foot, Michel Hidalgo, en son temps, Didier Deschamps, aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un truc de vieux con, ce que je veux dire, du genre, dans le temps, c'était mieux. Enfin, je veux dire quand même. Aujourd'hui, Didier Deschamps, on a le sentiment que seul compte la victoire, seul compte le résultat. Et je me souviens, à l'inverse, de déclaration d'Hidalgo expliquant que le foot c'était pas la guerre, qu'il fallait pas tout confondre. Hidalgo, pour moi, c'était vraiment le foot humaniste et éducatif. Comment se fait-il, alors c'est une question que je me pose et que je pose à Philippe, comment se fait-il, pour cette dimension éducative, on a l'impression que la culture du résultat l'a tellement laminée qu'aujourd'hui elle vaut encore pour le sport scolaire, pour le sport quotidien, de vous et moi, enfin, parce que moi, je ne suis pas un sportif de haut niveau, je n'ai jamais été, mais qu'il y a une telle logique de la victoire à tout prix que finalement, le sport de haut niveau, aujourd'hui, c'est marche ou crève.
Oui, alors, Pascal, je vais essayer de vous répondre avec ce que je connais. Alors, on est de la même génération, je connais les entraîneurs. Alors, cette valeur éducative, effectivement, elle existe dans le mouvement sportif. Mais quand on rentre dans les logiques de performance, je prendrai juste la phrase de Onesta qui dit « on est des chercheurs de médailles ». Moi, il me semble que ceux qui portent les médailles, il y a des sportifs autour, on va dire pas très loin de la médaille. Moi, je pense plutôt que, au lieu de parler de la médaille ou de la performance, on va mettre le sportif au milieu. Et on va travailler pour mettre en place une démarche de performance. Et on a oublié. Et Isabelle parlait tout à l'heure d'accompagnement de psy. Ce sont des préparateurs mentaux ou des psys qui accompagnent à la performance, pas forcément à l'équilibre du sportif. Et je pense qu'on a oublié cet étage-là. Alors, par rapport au commentaire d'Isabelle, j'ai cru comprendre que la foi permet également l'accès à la performance, et on peut effectivement l'évoquer sous cette forme-là. Moi, je pense en premier lieu que l'approche psychologique et l'approche spirituelle correspondent d'abord à quelque chose qui permet à un sportif d'être entier. On ne fait pas du sport qu'avec, on va dire, c'est pas qu'une épreuve musculaire ou technique. Il y a toute une approche globale. Et si on enlève la spiritualité, ben, il manque un étage. En tous les cas, même si l'étage existe, il y a pas de lumière. Et là, c'est un peu compliqué. Et je pense effectivement que vous évoquez l'aumônerie par rapport au jeu. Joël, j'espère que tu vas évoquer ce qui se fait notamment en Angleterre. Mais moi, je rêve qu'il y ait des espaces dans les centres de formation, dans les pôles d'entraînement. J'évoquais la dernière fois dans mon intervention que les sportifs n'ont plus de vie privée parce qu'ils ont un calendrier tellement orienté vers la performance. Ils sont toujours en activité et quand ils se retrouvent donc pour se reposer, ils sont à deux ou à trois dans la chambre. Donc ils n'ont plus de vie personnelle et de vie privée. Donc à partir de là, comment inscrire la spiritualité dans tout ça? C'est compliqué. Alors Pascal, je n'ai peut-être pas répondu, mais la valeur, l'éducation, c'est pas dans le sport de haut niveau. Il manque quelque chose d'éducatif dans les pratiques de haute performance.
Non, merci.
Du temps d'Hidalgo, il n'y avait pas la dimension économique du foot, hein. La
Oui.
dimension économique du foot n'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une telle pression que tout est étouffé.
Alors Pascal, ta question était remarquable, hein, je te rassure.
Yo.
Gilles Morin.
Je ne sais pas si mes questions seront aussi remarquables. Merci Philippe hein, pour tout ton exposé qui est très éclairant. J'ai deux questions. Je ne sais pas si c'est le lieu, si elles sont appropriées. Tu as évoqué un petit peu cette difficulté de l'identité professionnelle avec l'identité personnelle. Et donc le fait que des sportifs qui sont en fin de carrière, en quelque sorte, qui doivent se reconvertir, entrer dans une vie professionnelle, doivent avoir conscience aussi que, de par leurs activités sportives, ils ont développé un certain nombre de qualités, ils ont tout un potentiel. Mais le réflexe peut être de dire, j'ai des qualités, du potentiel dans le domaine sportif. L'impression, ça peut être assez facilement de se dire, en dehors de ça, je ne sais rien faire. Donc, comment ce transfert peut s'effectuer, voilà, hein. Est-ce qu'il y a des réconversions réussies dans de tout autres domaines, avec une passion, un enthousiasme, une seconde vie, en quelque sorte? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, elle a été abordée là déjà, c'est un peu cette dynamique l'obligation de niveau, l'obligation de résultat, le sur-régime. Est-ce qu'il y a une instance, est-ce qu'il y a un lieu, est-ce qu'il y a une autorité pour essayer de réguler cela? J'ai deux exemples en tête. D'abord, au dernier lieu, là, Simone Biles qui évoquait enfin, toute cette pression s'exerçant à tel point que psychologiquement, bon, on finit par péter un plomb, comme on dit, quoi. Et puis, j'ai en mémoire, il n'y a pas très très longtemps non plus, hein, l'entraîneur, je ne sais plus si c'est de l'équipe de Manchester, entrant en colère de par le fait des nombres de matchs de foot qu'on multipliait, qu'on demandait, en disant on va tuer nos athlètes, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autorité, un organisme, voilà, qui peut un petit peu intervenir avec force, quoi.
Gilles, merci pour ta question. La première réponse que je vais formuler, c'est par rapport à ces compétences. En fait, on fait un vrai travail d'évaluation, de mesure des compétences. Ça veut dire qu'on va essayer d'identifier l'ensemble des aptitudes qu'ils ont pu développer. Alors, je vais vous en donner certaines qui sont un peu périphériques, mais par exemple sur la diététique, ce sont notamment dans les disciplines de catégorie de poids, ils ont une vraie expertise sur cette approche-là. Certains ont fabriqué une super compétence dans le domaine de l'anatomie, de la physiologie, etc. Même s'ils ont une formation, on va dire, qui ne consacre pas ce parcours. Donc, d'autres sur le fait d'avoir vécu dans des équipes multinationales, etc., ils ont une compétence interculturelle, une maîtrise de l'intégration dans des groupes, une maîtrise linguistique, etc. Donc, c'est des aptitudes vraiment riches et qui permet d'envisager des projets dans certaines entreprises. Bien évidemment, il faut que ce soit associé à des parcours de formation. Donc, dans l'idée, c'est de déterminer avec précision un métier, de les amener à cette formation adaptée pendant le parcours de sportif, notamment sur la fin de carrière, et sur cette valorisation des compétences pour qu'on soit sur une transition. Voilà comment on fait. Donc, on fait bien des mesures de compétences. Sur le deuxième point, les seuls organismes qui peuvent intervenir, ce sont les syndicats. Lorsqu'on voit les calendriers qui se remplissent, etc. Je vous disais la dernière fois, à Rio, on a eu 42 médailles aux Jeux Olympiques. On en a eu 33 à Tokyo en 2020 et l'objectif est de 80 médailles à Paris. Vous comprenez bien que quand on détermine un objectif de cette nature, on voit les moyens qui vont être utilisés et les sportifs n'ont pas d'organisation en dehors du syndicat pour intervenir. Et puis en plus, c'est très difficile d'intervenir parce qu'on est quand même sur des enjeux politiques, économiques. Et donc, quand on lève le petit doigt pour dire « écoutez, là, ça va pas », c'est un peu compliqué. Alors de notre côté, je vais vous donner une réponse qu'on est en train de formuler. On a mis en place un travail avec un doctorant. On vient d'embaucher un doctorant dans le cadre d'un travail d'évaluation et de prévention des risques sur la partie psychosociale, de façon à avoir des éléments quantitatifs pour dire là, ça va pas. Nous, on a eu accès à des enquêtes qui nous amènent à avoir des inquiétudes sur la santé mentale de certains sportifs. Notre volonté, c'est d'arriver avec des éléments constructifs, ça veut dire non seulement un état des lieux, pour dire voilà, là, ça va pas, mais des outils permettant de travailler sur l'évaluation et la prévention des risques sur ces domaines-là. Voilà.
Merci Philippe. Donc avant la parole à Joël, Jason, comme ça qu'on prononce.
Oui, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que comme Isabelle, je me suis vraiment reconnu dans tout ce qui a pu être dit par Philippe. C'est vrai que sur la question de la reconversion, moi j'ai fait du judo à haut niveau. Moi, ça a été assez simple parce que la reconversion, je suis rentré au séminaire, donc j'ai été accompagné et ça s'est fait assez facilement. Mais c'est vrai que 5 ans plus tard, quand j'ai repris le judo et que je suis allé à une compétition et que j'ai revu que tous ceux que j'avais quittés il y a 5 ans sont encore dans cette dynamique de faire encore du sport à haut niveau ou bien ou s'entraînent encore assez dur, mais tout le monde ne performe pas. J'ai vraiment, en tout cas ce que vous avez dit m'a vraiment été parlant. Et du coup, moi, je me suis même posé la question. Je m'étais dit, moi, quand je faisais du haut niveau, je voyais qu'on n'était pas accompagné. Et du coup, je m'étais dit, mais en fait, on était un peu livrés à nous-mêmes. Bon, le temps a fait en sorte que chacun a vraiment pu trouver un peu un lieu de conversion et changer. Mais sinon, je me dis quand même que il y a vraiment quelque chose à faire sur la question de l'accompagnement, parce que beaucoup, s'ils quittent ce monde-là, sont un peu perdus et ne se retrouvent plus, parce que comme vous l'avez très bien dit, il y a un peu l'effet un peu être entre sportifs, être un peu il y a un peu un entre-soi, mais comment faire pour sortir et se réhabituer à découvrir un autre monde, d'autres codes, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà.
Voilà, merci pour l'intervention. Je le prends un peu comme une manière de transmettre la parole à Joël, qui peut se présenter et puis développer un petit peu ce qu'il pense être adapté par rapport à toutes les perspectives 2024, mais aussi par rapport à ce que vivent les sportifs de haut niveau. Alors, pour rassurer Pascal Balmain tout à l'heure, j'aurais tendance à définir que le sportif de haut niveau, on est tous quelque part sportifs de haut niveau dès lors où on atteint nos limites. Alors bien sûr, c'est pas là le haut niveau, mais que quelquefois, on peut retrouver effectivement quelque chose d'exemplaire dans ce qu'on entend de ce que Philippe a dit, pour des personnes qui des fois font énormément d'efforts le week-end pour quelque part se projeter dans un imaginaire. Et donc le discours de Philippe est sûrement transposable pour beaucoup de pratiquants d'une activité sportive. Voilà, Joël.
Merci beaucoup.